en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Figure attachante que celle de Louis Lépine, sans aucun doute le plus populaire des préfets de police de Paris. Inventeur en 1901 du célébrissime concours auquel il a donné son nom, Lépine était membre de l'Académie des sciences morales et politiques et il y avait été élu en 1912. Parmi les adjectifs qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque la personnalité de Louis Lépine, celui d'énergique vient le premier à l'esprit. L'énergie semble même s'être transmise dans les gènes du futur préfet de police, puisqu'un rapide coup d'œil à sa généalogie montre combien cette qualité était déjà présente chez sa mère et, plus encore, chez sa grand-mère maternelle, Mademoiselle de Lavis. Celle-ci, fille du dernier gouverneur d'Annecy avant la Révolution française, émigra en Espagne au moment de la tourmente, bien décidée à y refaire sa vie. Elle trouva de l'autre côté des Pyrénées le moyen de compléter son éducation et de fonder un foyer. Veuve brutalement, elle choisit de repasser en France, nantie d'une fille de 15 ans, celle-là même qui devait devenir plus tard la mère de Louis Lépine. Quand naît à Lyon le futur préfet de police de Paris, le 6 août 1846, parmi 6 autres enfants, c'est à nouveau la figure de la mère qui émerge dans ce foyer où l'on a soin de diffuser les valeurs de labeur, d'économie et d'entraide mutuelle. L'instruction du jeune Louis sera particulièrement surveillée. Il est vrai qu'elle sera prodiguée au moyen d'importants sacrifices financiers consentis par le reste de la famille. Adolescent, Louis Lépine part terminer ses études à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Celles-ci terminées, suivant en cela le conseil d'un ami de son père, il les parachève un an durant en s'inscrivant au cours de l'université d'Heidelberg en Allemagne. Quand on aura précisé que ses séjours allemands se situent en 1869, on comprendra tout le profit que devait en retirer a posteriori le jeune Lépine. Quand la guerre survient, en effet, l'année suivante, Louis Lépine interrompt ses études de droit. Revenant en hâte à Lyon, il s'engage dans les mobiles du Rhône. Nommé sergent, il est dirigé sur Belfort. Il ne tardera pas à s'y distinguer dans un engagement d'avant-poste où il fait preuve de vaillance et d'esprit d'initiative. De ce premier fait d'armes, il gardera une balle au bras et la médaille militaire, une distinction à laquelle il attacha toute sa vie durant la plus grande importance et plus de prix encore que le grand cordon de la Légion d'honneur qu'il devait recevoir à l'issue de sa carrière. La guerre terminée et la République proclamée, Louis Lépine achève son droit et s'inscrit au barreau de Lyon. Pourtant, observant le grand renouvellement qui se fait au sein de l'administration française, le jeune homme décide d'y prendre part et quand il est nommé sous-préfet de La Palisse dans le département de l'Allier, Louis Lépine pense encore qu'il ne restera que pour un temps dans la fonction publique. Pour peu important qu'il paraisse, le poste de sous-préfet de l'Allier va s'avérer fort utile à Louis Lépine. Très vite, en effet, débordant les limites de son arrondissement, sa vue le porte à embrasser tout le Bourbonnais et jusqu'aux pays limitrophes du centre de la France. Parallèlement, le sous-préfet veille soigneusement à entretenir ses réseaux parisiens. Il n'aura pas à le regretter. À La Palisse succède bientôt Montbrison, autre sous-préfecture qui, cette fois, le mène sur les bords de la Loire, en Touraine. Il gardera de cette affectation le plus beau des souvenirs, puisque c'est là qu'il rencontre celle qui va devenir son épouse et dont la perte prématurée le laissera inconsolable. « Tant pis pour La Rochefoucauld, à qui je dénie la compétence en cette matière », avait-il coutume de répéter, « il y a quelquefois des mariages délicieux ». À ce premier deuil en succédera un autre, au tout début de la Première Guerre mondiale. Louis Lépine perdra son fils, externe des hôpitaux, tué en Alsace au cours d'une opération menée parmi les chasseurs à pied. Après l'Allier et la Touraine, Lépine est nommé à Châteauroux, une nomination qui est aussi une promotion puisqu'il y arrive en tant que préfet. De ses années berrichonnes, Madame Lépine gardera un souvenir différent de son mari, confiant s'être beaucoup ennuyé dans la société castelroussine. Soucieux de complaire à son épouse, le préfet de l'Allier prendra rapidement la décision de revenir à Paris. On lui offre à l'époque le secrétariat général de la préfecture de police de Paris, un poste dont peu savent qu'il l'accepta d'abord pour être agréable à son épouse. Louis Lépine va passer 4 ans au secrétariat général, 4 années qu'il considérera toute sa vie comme son véritable apprentissage de la préfectorale. Il faut revenir un moment sur ce qu'était à l'époque le statut de la ville de Paris. Nous sommes alors au milieu des années 1880, dans une troisième république naissante, et alors que s'élabore petit à petit toute l'ossature du droit administratif français. Paris jouit d'un statut particulier. La ville a en quelque sorte deux maires, le préfet de la Seine et le préfet de police. Au premier, incombent les compétences générales, eau, éclairage, enseignement, assistance, etc. Et du second, relève le reste, c'est-à-dire l'approvisionnement, l'hygiène, la circulation, la navigation sur la Seine, les théâtres et, détail important pour la suite des choses, les petits métiers et les professions de rue. Quand Lépine devient secrétaire général, les relations entre le préfet et la ville de Paris sont très tendues. Lors des séances du conseil municipal de la ville de Paris, l'hôtel de ville et le préfet ne s'adressent même plus la parole. Le tout nouveau secrétaire général va vite savoir profiter de cette situation conflictuelle. Il demande et obtient du préfet de le représenter au conseil municipal. Puis, avec beaucoup d'adresse, il choisit d'abord de n'intervenir que dans les débats mineurs de l'Assemblée. Muni de la double confiance du préfet et du conseil municipal de Paris, Lépine fait son chemin et, en 1887, se présente pour lui l'occasion de sortir de l'ombre et de montrer ses talents. Le 6 juillet 1887, en effet, éclate à Paris une manifestation à laquelle donne lieu le départ du général Boulanger pour Clermont, où il doit prendre le commandement du 13e corps. Pour les partisans du général, cet éloignement de Paris auquel on contraint leur héros est une provocation et, devant la gare de Lyon, la foule surexcitée parle déjà d'une marche vers l'Élysée. La jeune République est en danger. Dépêché sur place, le secrétaire général de la préfecture a alors une idée de génie. Sous prétexte de protéger l'intrépide général de la foule, il le hisse sur la locomotive sous les vivats de la foule en délire et, dans le même temps, donne l'ordre qu'on fasse partir, mais lentement, le convoi qui s'immobilisera quelques minutes plus tard aux portes de Paris, loin des manifestants. Les forces de police parviendront ensuite à disperser la foule sans dommage. Et, vers minuit, le calme est enfin revenu à Paris. Si Louis Lépine a su démontrer son habileté de diplomate au sein du conseil municipal de Paris et ses capacités à maintenir l'ordre lors des émeutes boulangistes de l'été 1887, il lui reste à prouver son sens de l'organisation. C'est l'ingénieur Alphan qui va le lui permettre 2 ans plus tard. Alors directeur des travaux de la ville de Paris, Jean-Charles Alphan est en charge de travaux destinés à l'exposition universelle de 1889. Très vite, les deux hommes deviennent amis. Plus âgé que Lépine, Alphan est l'auteur des aménagements des bois de Vincennes et de Boulogne et du parc des Buttes-Chaumont, tous travaux menés durant le Second Empire. L'exposition universelle de 1889 est un instrument de propagande pour la Troisième République. Il importe de montrer au monde entier que la France s'est relevée depuis l'humiliation de 1870 et qu'il faut la compter parmi les premières puissances industrielles et commerciales mondiales. C'est pour cette exposition que Gustave Eiffel construit la tour qui va porter son nom et que l'écrivain Huysmans qualifiera de cathédrale du XIXe siècle. Quand les portes se refermeront sur les 50 hectares de terrain qu'elle aura occupés, l'exposition universelle aura accueilli plus de 32 millions de visiteurs. Après un pareil succès, et même si la contribution de Louis Lépine à ce projet pharaonique doit être ajoutée à celle de beaucoup d'autres, le secrétaire général reçoit la promotion que son activité au service de la ville de Paris lui valait bien. En 1890, il est nommé préfet de la Loire, puis préfet de Versailles. Il ne fera d'ailleurs que passer dans l'actuel département des Yvelines. En 1893, Lauzé, préfet de Paris, l'appelle et lui propose de prendre le poste qu'il occupe. Des émeutes répétées dans le quartier latin ont eu raison du vieux préfet. Elles seront l'occasion du retour à Paris de Louis Lépine. En acceptant ce poste, son bâton de maréchal, Lépine ne sait pas encore qu'il va rester en place 20 ans durant et qu'il le marquera comme aucun autre avant lui, comme après lui. Lointain successeur des lieutenants de police de la monarchie, le préfet n'était pas cher au cœur des Parisiens. De regrettables antécédents avaient contribué à jeter le discrédit sur cette fonction et contribuaient encore à entretenir un désamour durable entre les Parisiens et leur préfet. Louis Lépine aura à cœur de changer la donne. Il va d'abord s'attacher à faire redécouvrir la fonction de ses agents de police. Non sans humour, dans ses souvenirs publiés en 1929, il écrit, je cite, « Ces braves gens, je leur ai fait faire tous les métiers, croque-mort, sauveteur, accoucheur, pompier, balayeur, terrassier, et j'en oublie. Très vite aussi, les Parisiens croiseront dans leur quartier celui qui ne laisse jamais une occasion d'être sur le terrain et souvent, quelques titis à la gouaille sympathique, en le voyant passer, s'écriera « Regardez, le père Lépine !» Qu'on ne s'imagine pas pour autant que les années de préfectoral de Louis Lépine ne furent qu'un océan paisible. Parmi les faits divers auxquels il a eu à s'attaquer, il faut citer la bande à Bonneau, clique d'anarchistes dénués de scrupules qu'il parviendra à neutraliser aux abords de Villeneuve-Saint-Georges en 1911. 2 ans plus tôt, au carrefour Villiers, cette fois-ci dans le 17e arrondissement, il reçoit 2 balles au cours d'une échauffourée. À quelqu'un qui lui demande juste après comment il se porte, Lépine, Guilleret, répondra « Oh, ce sont les risques du métier ». Le plus populaire des préfets parisiens a pourtant bien failli voir sa carrière interrompue pour d'obscures raisons de rancune politique. Même s'il a toujours pris soin de se tenir éloigné des querelles de parti, Louis Lépine aurait pu chèrement payer le prix de sa fidélité à ses amis, surtout quand les amis en question se nomment Jules Ferry et que le gouvernement auquel ils appartenaient sont tombés sous l'attaque de Georges Clémenceau. Rancunier, devenu ministre de l'Intérieur en 1906, le Tigre avait toujours eu une vision romantique de la police et du maintien de l'ordre. Enfant, il avait vu son père, républicain convaincu, arrêté au domicile familial par la police de Louis-Philippe, et l'image était restée gravée dans sa mémoire. Il n'avait jamais caché qu'une fois qu'il serait devenu ministre, le préfet Lépine serait démis de ses fonctions. Pourtant, 6 mois après son entrée au gouvernement, Clémenceau et Lépine étaient devenus les meilleurs amis du monde. Selon l'industriel Eugène Schneider de l'Institut, à qui il revient de prononcer l'éloge funèbre de Louis Lépine en 1933, c'est grâce à la présentation que Lépine fit de sa police au ministre de l'Intérieur que Clémenceau put un jour s'exclamer « Je suis le premier flic de France ». Après être devenu une des figures les plus populaires de la vie parisienne, le préfet Lépine s'était vu décerner, en 1912, la médaille d'or de la ville de Paris. Quand il abandonna ses fonctions de préfet, c'est à l'unanimité que le Conseil de Paris lui rendit le plus vibrant des hommages. C'est que malgré la charge écrasante qui était la sienne, Lépine ne s'était jamais désintéressé du sort des malheureux. Il avait créé, explique Eugène Schneider de l'Institut, un bureau spécialement chargé de rechercher toutes les infortunes dignes d'être secourues. Les commerçants de détail furent toujours l'objet de sa sollicitude. Une industrie l'intéressait particulièrement, ajoute le sidérurgiste du Creusot, celle des fabricants de jouets et des petits inventeurs. Mais comment faire un tri entre tant d'idées, discerner ce qu'il y a de neuf, d'ingénieux, récompenser le mérite ? C'est à cette fin que fut créée en 1901 une société à laquelle un concours annuel fournit ses ressources. C'est ainsi qu'est né le concours Lépine. À l'origine, ce concours exposition récompensait d'un prix de 100 francs un petit fabricant de jouets, de quincaillerie, d'articles d'ameublement, de sport ou de mécanique. Il était destiné à sortir les fabricants parisiens du marasme économique ambiant. Aujourd'hui, ce concours d'invention est ouvert à tous, à condition qu'un titre de propriété intellectuelle ou industrielle, un brevet, soit déposé. Son objectif est de récompenser une invention originale. En plus d'un siècle, de nombreuses inventions ont ainsi été primées, parmi lesquelles le stylo à billes, le moteur à 2 temps, le fer à repasser, à vapeur, ou bien encore les verres de contact. Mais le préfet Lépine a d'autres inventions à son actif. C'est en effet à lui qu'on doit la brigade fluviale, les brigades cyclistes chères aux photographes et aux caricaturistes de l'entre-deux-guerres, avec leurs pèlerines qui volent au vent. C'est encore Lépine qui eut l'idée de doter les agents de police d'un sifflet à billes et qui fit installer 500 téléphones de couleur rouge dans Paris afin qu'on pût avertir les pompiers en cas de sinistre. On lui doit encore l'instauration du sens unique dans certaines voiries, du sens giratoire et jusqu'aux prémices de ce qui devait devenir notre police scientifique. Élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1912, Louis Lépine prit sa retraite l'année suivante. Il mourut le 10 novembre 1933 et a laissé des mémoires parus en 1929 sous le titre de « Mes souvenirs ». Aujourd'hui, une place de Paris porte son nom dans le 4e arrondissement.